Bonjour et bienvenue dans Certains Les Machos, l'émission qui joue à la castagne avec les films à la sortie. Salut Thierry.
Non, je ne ferai pas de vieux bruits de Bruce Lee raciste pour faire les trucs de castagne. Je sais que tu me regardes en faisant des grands gestes depuis tout à l'heure, mais non.
Même pas un petit « Ouatatatata ».
Seulement Donnie Yen peut le faire, a priori.
Oui, on va parler Kung Fu, on va parler Bruce Lee. Bon alors, le mec qui va jouer Bruce Lee, en fait. Et même le mec qui joue le maître de Bruce Lee. Donnie Yen dans Ip Man 4, la sortie entre guillemets blockbuster de la semaine.
C'est clair que là il a un couloir pour lui, hein. Bon, avec une excellente distribution même. Tu sens qu'il a eu un couloir, quoi. Bon, malheureusement il n'y a pas grand monde en salle, mais bon.
Bah, il devait y avoir Mulan normalement cet été et Wonder Woman qui sont encore reportés, donc bon, voilà, il en profite. Mais on ne verra pas que du blockbusters, on ira aussi voir quelque chose de plus doux, quelque chose de plus fin. N'est-ce pas Thierry, tu as vu ? Pour nous, avec des invités merveilleux.
Le meilleur film de l'été, Madre, de Rodrigo Sorogoyen.
On vous parlera notamment de La Nuit Venue, de Né à Jérusalem et Toujours Vivant, et de Tiempo d'Espues.
Et évidemment aussi de quelques films qu'on a vus à droite à gauche, par-ci par-là, dont on a envie de parler.
Et les recos à la fin. Le concept de l'émission, on le rappelle pour ceux qui découvrent l'émission cet été. On va voir les films, on en parle directement à la sortie. C'est pour ça qu'il y a des bruits de fond, qu'il y a des gens qui parlent, qu'il y a des bruits un peu comme ça. Ça nous rappelle un peu la fureur de la ville. Si vous êtes à la plage, que ça vous manque un peu. Si vous êtes confiné, peut-être qu'il y a eu une deuxième vague, qui sait.
Si vous êtes plus confiné et que ça vous manque un peu, on ne sait jamais. Hein, je veux dire, il y a des gens qui ont plutôt bien vécu leur confinement. Moi, j'ai vu beaucoup de films, j'étais ravi. J'ai eu beaucoup moins de sous, ce qui est du coup moins bien pour retourner voir des films derrière. Mais j'en ai vu. Et ça, c'est cool. Et je sais qu'on est nombreux. N'oubliez pas, soutenez les films.
Soutenez les films, allez au cinéma. Et soutenez l'émission, commentez, partagez.
Oui, il n'y a qu'une seule manière de les soutenir, c'est en écoutant l'émission. Enfin, je veux dire, si c'était pas assez clair.
D'ailleurs, tu sais que maintenant on peut noter et commenter les épisodes sur Podcast Addict.
Non, je ne savais pas.
Donc, sur ton Google Phone, sur cette appli qui est gratuite, me semble-t-il, tu peux commenter et mettre des étoiles par milliers. Enfin, 5 déjà, ça sera pas mal.
5.
Mais lui, il n'a pas 5 étoiles, ce n'est que le 4e film, c'est Ip Man.
Maître Ip Man.
Parce que ce pays est le plus grand et le plus puissant du monde. Ça rentre dans vos têtes.
Oui, c'est clairement de la provocation.
Et c'est tout. C'est ça, votre kung-fu chinois.
Que s'est-il passé ? Face à l'injustice, je ne peux pas ne rien faire.
Aucune règle. On se bat jusqu'au chaos.
Ça y est, l'été commence enfin. Il y a eu plein de petits films français, là, des petits films d'auteur, mais là enfin, on a du blockbuster. Et attention, pas n'importe quel blockbuster. Le film qui a éclaté Star Wars à Noël. En Chine.
On aurait bien aimé qu'il l'éclate partout, hein, n'empêche.
Ip Man 4.
Quand tu commences comme ça en disant ça y est, on a eu des films français, ça y est, c'est l'été, t'as envie de dire hey YouTube, ça y est, tu peux travailler, il y a un film étranger.
Un blockbuster.
Ouais, un blockbuster, c'est vrai que ouais, la seule manne que tu as parce que tu sais pas qu'il y a des films aussi qui existent.
Bref, alors c'est un blockbuster international, blockbuster qui a éclaté Star Wars en Chine. C'est un film chinois, ce n'est pas un film américain. Pourtant, ça se passe aux États-Unis, il y a des drapeaux américains, il y a du nationalisme. Les Américains, c'est le plus grand pays, tout ça. Pour dire qu'à la fin, quand même, les Chinois sont plus forts. Il a un nom de super-héros, mais il est plus fort que ça. C'est Ip Man, Ip Man 4, le dernier combat de Wilson Whip avec Donnie Yen qui reprend le rôle pour la 4e fois. D'après la biographie du maître de kung-fu de Bruce Lee, c'est pas n'importe qui, c'est tiré comme. Il y a un vrai matériau quand même à la base.
Après, nous, on dit le maître de kung-fu de Bruce Lee quand on pense à Ip Man, mais tu vas en Chine, Ip Man est plus connu que Bruce Lee. Hein. Donc au final, c'est vrai que nous, on a tendance à le connaître par ce filtre-là. Et maintenant, ça commence à changer d'ailleurs, c'est cool. On commence à faire se rendre compte que ce mec-là était un grand monsieur en son temps.
Cette fois-ci, c'est le dernier combat.
Le film avec Van Damme.
C'est presque ça. Il lui reste que quelques mois à vivre, il a le cancer. Et donc, il part aux États-Unis parce que sur invitation de son élève Bruce Lee. Et il cherche une école pour son fils. Pour lui laisser une chance dans la vie. Hélas, il va être confronté au problème du racisme. Et quoi de mieux que coller des mandales pour vaincre le racisme ?
Il n'y a rien de mieux, pour le coup, c'est très efficace. Et on a des reconvertis, et je pense qu'il faudrait essayer ça avec Trump. Il y a moyen que si on lui fout une mandale, si on appelle un grand maître éminent du kung-fu, bah, qu'il puisse devenir un peu moins raciste.
Je veux voir ce film.
J'ai très envie de voir Trump en position fétale avec Donnie Yen qui est allongé sur lui, qui lui fout des rafales de coups de poing là. Oh là là.
Je vous avouerai que donc il y a un personnage, c'est le sergent. Non, juste pour expliquer, c'est que des fois je fermais les yeux quand il parlait et j'avais l'impression d'entendre Trump quand il parlait des Chinois.
Et quand tu ouvrais les yeux, tu voyais Ryan Reynolds avec 30 kilos de plus.
C'est ça, voilà.
Scott Adkins.
Vous les entendez, ils sont chauds, mes deux combattants de ce soir. À ma droite, ce n'est pas Ip Man, c'est mieux, c'est Mark Wan.
Eh ouais, c'est moi, je suis prêt à à me battre. Oh putain. Alors, en fait, on a oublié de vous dire que c'est pas les blagues de Toto qu'on va voir début août, ce serait les blagues de Thomas. Parce que là, vraiment, c'est d'un niveau.
Et à ma gauche, face à lui, le sergent Thierry. Ous.
C'est bon, du coup, je me tape le vieil américain dégueulasse, merci.
C'est toi qui as la coupe la plus proche.
C'est vrai que là je serais plus un hippie à cette époque-là.
Alors, Marwan, toi, tu es un fan de Hitman, on peut le dire, tu les as tous vus. Oui. Et tu as passé un plutôt bon moment, j'ai cru comprendre.
Ah oui, pour le coup, vraiment, c'est une conclusion qui est touchante. Surtout, c'était dans cette idée de conclure, de raconter davantage le rapport sino-américain. Et puis, pour moi, c'est vraiment une suivi. Il y a pas, c'est une conclusion, mais en même temps, c'est quelque chose de, pour moi, qui est extraordinaire parce que ça ne cache, ça ne veut rien cacher, ça ne veut pas cacher son côté grandiloquent, son côté soap opera. Il y a vraiment, pour le coup, la BO le montre très bien, mais tu as vraiment ce jeu d'acteurs vraiment avec les grands mouvements amples, les grands sentiments, mais c'est ça qu'on veut, tu vois. C'est ça qui est beau et qui est fort, c'est qu'ils assument jusqu'au bout. C'est, quand t'as joué à Street Fighter ou à des jeux comme ça, t'as l'impression d'installation de stage et puis des répliques de la mort. Et puis ça, c'est des trucs qui font que les gens passionnés de sport de combat, ça les excite, ça rend fou. Et puis c'est trop bien. Non, c'était une belle expérience. Je serais, je pense, celui qui a le plus apprécié. Et donc je vais laisser la parole à mon adversaire du jour.
Alors donc du coup je dois être l'adversaire, donc c'est de la merde parce que moi je peux vous assurer d'un truc, hein, c'est que les Américains, tu vois, quand tu vois Scott Adkins, il est balèze. Donc je veux dire, les passages où il se met sur Donnie Yen, il l'étouffe. Tu vois, faut arrêter de penser qu'un petit chinois chétif comme ça, il peut battre un gros gaillard. Tu vois, ce qui compte, c'est les muscles. C'est le karaté, c'est le fait d'avoir l'impression d'avoir un balai dans le cul de chacun de tes membres.
C'est bon, tu peux mettre le générique.
Donc Scott Adkins dans le rôle de Guile, enfin du sergent Barton, enfin qui est l'adversaire, voilà, et qui fait du karaté, parce que c'est tellement américain le karaté, n'est-ce pas?
Oui, mais surtout quand il arrive et qu'il te donne le nom de sa formation et il te balance des noms japonais, le gars, tu fais... Ah, tu es fort. Non, j'ai passé un super moment tout en trouvant quand même des gros défauts qui m'ont fait énormément rire. Après, en fait, je me dis, c'est dans la diégèse du truc et ça me dérange pas parce que c'est totalement volontaire, je pense, d'en rire et d'exagérer à mort le trait. Il y a le côté les méchants sont extrêmement méchants, il y a le côté les gentils sont très gentils, il y a le côté on t'accentue la musique à fond quand il faut avoir de l'émotion, tout le monde surjoue, hein, t'en as pas un qui est juste. Mais ça va dans le délire en fait, c'est t'acceptes totalement le truc en te disant tu dois ressentir des énormes frissons, donc ils vont te les pousser à fond pour que tu puisses les ressentir. Donc en soi, c'est très fun. Après, il y a quand même, voilà, un côté caricatural, ça m'a fait penser à Rocky 4, un truc très propagande, quoi, en mode vraiment, le méchant, faut vraiment que t'as l'impression qu'il soit doublé aux stéroïdes, c'est presque bien qu'il sache se battre, et qu'il nous ait pas fait un mec triplé aux stéroïdes, juste en mode, c'est une enclume, donc du coup, tu peux rien faire, quoi, qu'il ait quand même un minimum de décence là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a quand même le côté tous les combattants chinois ont forcément de l'honneur, les Américains sont forcément des grosses putes, c'est dommage, en fait, de réfléchir par ces filtres-là. Et ça aurait été bien qu'ils aient un minimum de décence. Et après, non, voilà, moi, le seul truc que j'aurais potentiellement à reprocher, c'est au niveau des chorégraphies d'action que je trouve très bonnes. Mais le problème, c'est au niveau de la mise en scène qui m'a pas mal dérangé. J'ai trouvé ça très cuté. Et moi, c'est vrai que. Bah, après, tu me diras, c'est l'école hongkongaise aussi qui a tendance à cuter énormément ses combats. Mais des fois, je trouvais que ça manquait de fluidité. Et j'aurais bien aimé voir beaucoup plus de mouvements, en fait. Et il y a un côté montage frénétique pour te montrer que ça va très vite, que ça va très fort, que tu ressentes les coups. Tu ressens beaucoup de choses, mais j'aurais bien aimé des fois que la mise en scène se relâche un petit peu pour qu'on puisse justement savourer le combat limite de plein fouet, pas en plan séquence forcément, mais en tout cas avec des actions plus longues.
C'est vrai que c'est dommage, je suis d'accord avec toi. C'est que les films en général d'arts martiaux, même avec Bruce Lee et tout, c'était vraiment cette liberté de filmer beaucoup plus tranquillement et tout, et de montrer davantage, ce qui fait que c'était impressionnant, que ça rendait fou tout le monde. Mais et là, ouais, l'utilisation de focale longue faisait qu'on avait des fois du mal à suivre l'enchaînement. En fait, il utilisait vraiment des scènes magnifiques de combat, et quand ça il y avait une transition sur des scènes beaucoup plus cutées et beaucoup plus avec des longues focales, bah ça rendait le rythme un peu moins intéressant. Mais ça, c'est ouais, mais pour moi c'est de l'ordre du détail, parce que en général c'était quand même maîtrisé.
Moi, j'ai beaucoup aimé le côté nanardesque à tout moment. Tout se règle par la castagne, quoi qu'il arrive. Hein, et voilà. Et puis, l'honneur, c'est vite dit, parce que quand il y a un mec qui vient les provoquer, il enchaîne les maîtres de Kung Fu les uns après les autres. Donc, dès le premier, on pourrait dire, bon, ben, t'as gagné. Non.
Non. Ah non, mais il a clairement pas d'honneur. Hein. Non, mais c'était juste de dire, au moins, il sait se battre, entre grands guillemets. Quoi. C'était juste ça par rapport au méchant archétypal qu'on aurait pu imaginer, limite, prendre son flingue en mode, mon flingue, il est plus fort que toi, tu vois. Mais c'est vrai qu'il manque à la grande limite. Et c'est là que tu vois que c'est un film chinois, hein, comme tu le disais.
Alors, d'ailleurs, ça posait problème aussi. Il a été boycotté en partie à Hong Kong en ce moment, parce que la prod et des acteurs se sont montrés pro-Pékin. Bon, en même temps, quand tu fais 90% de ton chiffre sur la Chine continentale, bon.
Ouais, malheureusement, il y a aussi des accords de complaisance, quoi. Mais non, en fait, c'est le seul truc. Alors après, il le montre dans le panneau que grâce à ce combat, il y a eu des maîtres qui ont été appelés dans l'armée américaine. Mais c'est vrai qu'il y a limite un côté, quitte à faire du naïf, parce que c'est ultra naïf, hein, dans les morales, avec un gros coup de gros sabots sentimentaux, tu aurais presque apprécié que Ip Man s'arrête, regarde toute cette armée et leur fasse un petit vous voyez, je l'ai peut-être battu, mais l'important c'est de ne pas se battre, c'est de ne pas juste battre ses adversaires, de ne pas tuer ses ennemis, mais d'utiliser ça pour faire le bien autour de vous et tout. Là, c'était juste en mode, vous voyez, je vous avais dit qu'on était les plus forts, allez, je me casse. Il y avait un peu ce côté-là en fait, où tu te dis, ça va un peu hors de la morale du gars en fait, qui pourtant lui ne s'est battu qu'en dernier recours parce qu'il n'avait pas le choix. Et voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté bancal là-dessus, quoi.
Je trouve que c'est, encore une fois, c'est une question d'honneur, c'est tout simplement ça, cette idée de vouloir venger des gens qui ont été déglingués très violemment. Et voilà, c'est ça qui est très drôle, c'est que bah, dans ce film-là, même dans les films Ip Man, ce qui est drôle, c'est que tout le monde peut être ceinture noire de quelque chose, et ça, c'est génial. Et je l'avais oublié quand j'ai vu Ip Man 4, et c'est très 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 drôle. Et non, c'est super, c'est vraiment, il y a une... Encore une fois, c'est l'art du spectacle au summum, et c'est fascinant. Vraiment, ça fait plaisir de voir ça au cinéma, et en plus de ça, au Publicis, j'avais envie de le dire.
Avec des super sièges en cuir.
Ah, voilà. Publicis, c'est toujours le meilleur cinéma de Paris. Je dis pas ça parce que je travaille à côté, je dis ça parce que je le pense.
Bon, il paraît qu'il y avait 52 millions de dollars de budget, je sais pas où ils sont, s'ils sont passés dans les meubles.
Il n'y a pas trop de destruction de meubles, hein, quand même. Un petit peu quand même, mais ça va, c'est plutôt soft, hein, dans l'utilisation du décor pour se battre.
Après, dans tous les cas, vraiment, j'ai trouvé que même les décors sont assez, sont vraiment bien mis en valeur, avec des jeux de couleurs. Ouais.
Ah, l'association de la culture chinoise, c'est super beau.
Et puis ouais, la photographie aussi, elle est vraiment, moi, je la trouve vraiment très belle. T'as ce côté, c'est un peu, les personnages sont un peu intangibles. T'as pas l'impression qu'ils soient vrais. T'as ce côté un peu comme si il voulait vraiment les mettre au niveau de personnages un peu, pas divin, mais extraordinaire.
Les Golgoths, ouais, sont filmés d'en dessous pour qu'ils aient l'air encore plus costauds.
Tu vois, même la texture, la peau, ces personnages-là, t'as l'impression, pas que ce soit la 3D, mais que t'as vraiment l'impression que c'est qu'ils sont hors du temps, que c'est genre des gros...
J'ai eu l'impression aussi qu'ils étaient post-synchro.
Oui, il y a plusieurs moments, tu le sens, ça.
Ça faisait très jeu vidéo des fois, dans la manière d'appréhender les combats, un petit peu comme si tu jouais à Street Fighter et que du coup t'as forcément des chocs de culture, et du coup c'est pas la même sémantique des corps non plus, quoi.
D'ailleurs, en parlant de post-synchro, bon, d'habitude on va voir les films en VO parce qu'on aime bien le jeu d'acteur. Là, vu la qualité de la VO, je crois que je vais laisser la bande-annonce française pour une fois.
Ça dépend, j'espère. Est-ce qu'ils font des accents racistes?
Je sais pas, mais au moins ils parlent français au lieu de parler mandarin.
On verra bien quand on écoutera l'épisode. J'ai pas envie de me rendre compte tout de suite s'ils en font.
Ou quand on est fait, je sais pas, mais ils parlent chinois. Voilà.
Oh, mais ça m'étonnerait que les gens qui écoutent Clack ne soient pas au niveau en mandarin.
Oui, c'est obligatoire. C'est oui, bien sûr.
Pour avoir la petite carte claque officielle, il faut savoir parler mandarin.
Bon, je sais pas si on a battu le racisme à coup de mandale.
Mais c'était une très bonne conclusion, et puis c'est agréable de voir que ces films sont mis en avant en ce moment. Donc c'est cool. Dans cette idée qu'en ce moment, t'as une partie du cinéma américain qui prend le temps de se remettre en place, et là on a des propositions.
Ben c'est ça, c'est un film qui profite du report des blockbusters. D'ailleurs, Donnie Yen, on le reverra dans Mulan. quand ça sortira un jour peut-être.
Ça, par contre,
qu'est-ce qu'on a envie.
Je t'avoue qu'il a un peu moins envie, tu vois, comme ça.
À peine.
À peine.
Bon, on va voir quelque chose qui puce notre cap. Il y a moins de coups de pied. C'est plus posé, c'est plus serein, c'est plus dans l'introspection, on va dire.
Vous êtes pas française? Espagnole?
Ouais.
Ah ouais? Vous savez que je parle espagnol? Yo, me llamo Jean.
Yo.
Bonjour, Grégory.
Elena.
C'est lequel le vôtre?
Aucun.
Non? Vous aimez le foot de plage, alors?
Pas spécialement.
Quoi laisse sous direction?
Comment?
Vous savez où j'habite. Je vous ai vu, monsieur.
Thierry, tu es parti en Projo Presse voir Madré. C'est qui déjà le Real de Madré?
C'est un certain Rodrigo Sorogoyen.
Comment tu dis?
Rodrigo Sorogoyen.
C'est pas
Rodrigo Sorogoyen. Vraiment. Ah bah, j'ai vu ton regard, tu t'es dit, je vais lui faire parler en espagnol rien que pour l'avoir sur l'accent, pour le nombre de fois où il me reprend. Non, c'est juste que j'avais prévu une blague avec Sodo dedans.
Non, c'est que tu l'as dit trois fois d'affilée, en intro.
Quoi?
Sodo Royen.
C'est faux.
Écoute, comme ça part tout de suite, on va avoir la preuve.
C'est faux. On est avenue Hoche, on est à la sortie du Club 13, on sort d'une projection presse qu'on a annoncée la semaine dernière. On est allé voir Madré, le nouveau film de Rodrigo Sodoroyan. Donc j'y suis allé avec Ellie, coucou Ellie.
Coucou.
Et donc évidemment pas l'équipe de claque parce qu'on a pu y aller qu'à deux malheureusement. Mais une invitée, Lily du blog Lilili. Salut Lily.
Salut.
Alors donc du coup Madré, le nouveau Rodrigo Sodoroyan. Rodrigo Sodoroyan qu'on connaît bien en France parce qu'il a démonter le festival de Bonn avec El Reino et il s'était fait remarquer aussi avec un précédent thriller qui s'appelait Que Dios nos perdone. Et là on n'est pas du tout face à un thriller classique, en tout cas on est face à une histoire d'enlèvement. Initialement on part sur l'histoire donc de Elena qui est une jeune maman dans son appartement madrilène qui reçoit un appel de son enfant qui est perdu sur une plage. Il a été gentiment laissé par son papa qui est reparti à la voiture et il est tout seul. Elle panique. L'enfant disparaît, il y a quelqu'un, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et l'action se situe 10 ans plus tard quand elle vient en France en essayant de retrouver... Là, on a le réel qui nous fait coucou. Voilà. J'adore, je présente jamais et en plus, on me perturbe. Ça se passe 10 ans plus tard, ça se passe à Vieux-Boucau où elle vient en essayant de retrouver initialement, on imagine, la plage sur laquelle son enfant a disparu. Elle a vécu 10 ans ici, elle erre et elle rencontre Jean, un garçon qui est en vacances. Qui lui fait penser à son fils? Il aurait son âge. Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas lui? Elle va s'intriguer sur ce garçon, commencer à le suivre et lui va lui rendre une certaine attirance. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une histoire d'amour? Est-ce que c'est une histoire mère-enfant? On ne sait pas tant. En tout cas, ça se développe sur ça. Bon, c'est bien résumé. Qui veut commencer? On va laisser la place aux invités. Est-ce que tu veux nous donner déjà ton ressenti sur le film avant qu'on débatte justement des éléments?
Oui, moi je pense que c'est un des plus beaux films de l'année, je l'avais déjà vu et je voulais absolument le voir sur grand écran en fait. Et voilà, c'était un gros coup de cœur. Je trouve que la façon de filmer les personnages avec ce mouvement de vagues qui rappelle le mouvement des vagues de l'océan en fait, cette façon de les laisser s'approcher de la caméra ou de s'en approcher aussi comme ça avec des va-et-vient qui font qu'à la fois on essaye de comprendre Elena et en même temps elle garde toujours une part de mystère. Voilà, je trouve ça vraiment, à mon avis, esthétiquement, c'est vraiment parmi ce qu'il y a de plus subtil et de plus beau cette année, donc voilà.
C'est vrai qu'esthétiquement, c'est très très beau et ça change aussi. On sort des rythmes extrêmement nerveux qu'on avait pu voir sur El Reino, qui justement saccadait le film constamment d'un montage qui était soit en plan séquence, mais des plans séquences très nerveux. Là, on est sur de la contemplation, on est sur de la beauté, on est sur des plans très larges, on magnifie les plages du littoral landais. Et justement, ça représente aussi cette errance, ça représente cette espèce de solitude, de mélancolie totale qui regroupe Elena. Et oui, en effet, c'est vrai que c'est toujours très fluide, c'est beaucoup plus doux. Et à la fois, il y a toujours cette espèce de tension qui tire, qui laisse planer des mystères assez prononcés. Eli, est-ce que tu veux rebondir là-dessus?
Complètement. Je trouve ça très pertinent ce qu'a dit Lily. Et j'avoue que cette subtilité de la mise en scène est très... très prégnante et on la ressent vraiment tout du long. Et en même temps il y a cette subtilité dans la relation qu'entretiennent Jean entre Jean et Elena. Il y a toute cette ambiguïté qui est vraiment développée tout du long et qui maintient une tension presque d'un film à suspense au final, parce que c'est vrai qu'on sait jamais si la ligne va être franchie de cette relation entre quelqu'un qui est quand même assez âgé, elle a 39 ans elle dit dans le film, et lui il aurait 15-16 ans environ, et du coup on se demande tout le temps s'il va franchir cette ligne sur Gagne. En fait, ils joueront sur un, comme un équilibré sur son fil, et il nous maintient en haleine avec cette, cette belle histoire qui au final, bah, en fait, conserve une pureté mais tout du long, même jusqu'à son épilogue. Et c'est ça qui rend le film vraiment bouleversant, parce qu'on a vraiment un chemin, on suit vraiment donc, ouais, une libération féminine et sur, après un deuil, après une perte. Et j'ai trouvé ça vraiment très très réussi, et je suis complètement d'accord avec lui. Pour moi, c'est un des plus beaux films que j'ai vu de l'année, et ça fait plaisir. J'attendais beaucoup et je suis vraiment pas déçu. Je suis très content de voir Sorogane dans ce registre là je trouve aussi bon, voire même encore plus fort, avec sa maîtrise de la mise en scène, ses plans séquences dans Madré là. C'est vraiment, mais c'est un délire, surtout celui de la fin, un vers la fin qui est absolument fou. Enfin, on fait le tour d'une maison, mais avec une énergie qui rappelle pour le coup El Reino, mais avec des émotions qui sont décuplées, parce qu'il y a vraiment un sentiment de déchirement qui monte. Et franchement, c'est vraiment tout en balance, tout en nuance, tout le long du film. Et je pense qu'émotionnellement, on est vraiment chamboulé, mais dans le bon sens du terme.
Et c'est vrai que le plan séquence, comme tu le dis, et comme on l'a dit de toute façon, c'est quelque chose qui parle beaucoup à Sorogoyen, mais comme il le dit lui-même, il faut que ce soit justifié. Il faut que ça serve un propos, il faut que ça serve une intention. Et c'est vrai que, pour faire la jeunesse du film, c'est né d'un court-métrage qu'il avait tourné donc il y a quelques années, et qui était justement un unique plan séquence que l'on voit au début du film, qui est justement sur cette mère qui vient de se rendre compte que son enfant est en train de disparaître, avec sa mère à elle aussi qui appelle la police, elle appelle des gens. C'est, voilà, c'est une tension téléphonique qui nous laisse à penser qu'on va partir dans un thriller de recherche assez... assez épileptique également, avant de justement avoir choisi de développer ça en long métrage et de choisir justement de poser la question de 10 ans après, qu'est-ce qui se passe. Moi, ça m'a fait penser, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film que j'ai vu à Deauville l'année dernière, ouais, c'est ça, c'était American Woman de Jack Scott. Et justement, c'est pas du tout le même principe, mais c'est l'histoire d'une femme qui perd sa fille. Sa fille disparaît du jour au lendemain. Elle va la chercher, voilà, elle va partir à sa recherche, appeler le FBI, elle va essayer de se rendre justice, sauf qu'en fait, le film prend une ellipse d'un coup, une dizaine d'années également, et après c'est la vie d'une femme qui se reconstruit par différents moyens, qui apprend de ses erreurs, qui passe à autre chose. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'au final, oui, on a un double chemin, et le chemin même de Jean est assez intéressant, puisque lui au début va être attiré par cette personne et va clairement essayer de voir ce qu'elle lui veut en se disant je suis un ado, pourquoi pas. Puis il va énormément, enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti, il va aussi changer d'avis, puisqu'il va se rendre compte que ce qu'elle veut de lui n'est pas forcément ce qu'il attend non plus, mais qu'il est plus ou moins d'accord et que ça lui convient, parce qu'il a la relation conflictuelle avec ses parents aussi qui joue. Ce qui est assez fou, c'est tous ces jeux de regard en fait entre les deux, et les acteurs qui sont fantastiques. Le duo fonctionne très très bien.
Oui, non, mais c'est sûr que ça ne marche que parce que c'est eux. Enfin, quand, voilà, tout à l'heure le réalisateur disait il était très heureux de trouver très vite l'acteur parce qu'il pensait que ça allait être très compliqué. Il y a énormément de films comme ça qui fonctionnent en mode parce que c'était lui, parce que c'était moi. Enfin, moi je vais penser à Call Me By Your Name en disant ça parce que ils le disent et que voilà, c'est. Mais je pense que toutes ces histoires comme ça qui jouent sur la subtilité et la question de la différence d'âge et comment elle peut être interprétée et comment on fait à l'écran pour que ça paraisse pas quelque chose de malsain et que ça paraisse pas un détournement de mineur, quoi. Enfin, on est toujours à la limite de ça, et ça ne peut marcher qu'avec des acteurs d'une extrême finesse et qui ont réussi vraiment à aller suffisamment profond dans la psychologie de leurs personnages et dans le rapport de complicité qu'ils ont créé entre eux, pour qu'à l'écran, c'est vraiment un travail de funambule, quoi. Et chaque regard, du coup, est plein et profond, et du coup, exprime à la fois toute cette ambiguïté. Je pense à la scène où ils sont dans le bar la nuit avec l'ex de Jean, là, la jeune fille qui commence à danser et tout, et on les voit se regarder par-dessus, et elle devient floue en fait, parce que juste la caméra montre bien que finalement ils se regardent par au-dessus, et elle comprend elle-même d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment, c'est assez emblématique de ce qui se passe dans le film, de cette bulle qui se crée entre eux, cette relation où on aurait bien du mal à mettre des mots dessus précis, et que personne ne comprend dans leur entourage, parce que finalement le conflit entre Jean et ses parents, on sait pas tellement s'il y avait conflit au départ, c'est juste un ado, mais voilà, ses parents sont des cons parce qu'ils sont bourgeois et parce que lui, il est jeune, et que c'est un peu une posture aussi. Enfin, quand on voit ce qu'il... Voilà, il écoute sa aise et tout, c'est vraiment typique de l'adolescence. Mais ce qui va faire qu'il va y avoir vraiment un conflit et tout, c'est ça, c'est que cette relation-là, personne ne peut la comprendre à part eux. Voilà, c'est ça qui est fort aussi.
Oui, on a des parents qui sont surprotecteurs, mais aussi parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Et en soi, même s'il y a certains moments où ça peut tomber dans une certaine violence, notamment de la part du grand frère, et on va pas forcément parler de ce passage parce que c'était pas très subtil, enfin plus par le jeu d'acteur du grand frère qu'autre chose, mais on comprend aussi qu'il puisse ne pas comprendre cette relation. On a même les amis de Jean qui sont un petit peu perdus, de se dire qu'est-ce que cette presque quarantenaire vient faire dans notre groupe d'amis. Elle est super cool, elle est gentille avec nous. D'ailleurs, on peut sympathiser avec, mais c'est vrai que c'est quand même pas logique pour un ado, pour des ados de 16 ans de se dire on a une nana qui a là, elle a presque 40 ans et elle vient traîner avec nous parce qu'il nous l'impose. Et les parents, on les comprend aussi. Du coup, c'est vrai qu'il y a toujours cette espèce d'ambiguïté. Et on se dit, et heureusement que les caméras sont très proches d'eux pour que nous, par le prisme de la caméra, on puisse comprendre ça au moins et qu'on puisse les soutenir en se disant ouais, on n'est pas du point de vue des autres, sinon c'est clair qu'on serait aussi perdu qu'eux.
Juste rapidement, moi j'aime beaucoup le fait qu'il utilise le grand angle. Alors je sais pas si c'est parce que je suis un grand fan de Malick qui utilise tout le temps le grand angle. Et en plus, il y a un côté deuil, donc j'ai un peu pensé à Tree of Life. Enfin, il y a un plan très très beau où à un moment on les voit en train de marcher sur la plage et ça filme leurs pieds vers l'eau. Ça m'a un peu rappelé Tree of Life et Jessica Chastain qui aussi doit faire le deuil de son enfant. Et c'est vrai que bon, toute cette espèce d'ambiance un peu voilà, des grands paysages, un film très contemplatif en grand angle. Ouais, il y a quelque chose qui en plus me parle forcément, grand fan de Malick que je suis. Et non, j'aime beaucoup, c'est vraiment, il a réussi à créer une ambiance très particulière, on l'a dit déjà plusieurs fois, mais qui allie, enfin, franchement, on n'est pas loin de la perfection dans la démarche qu'il entreprend et dans le résultat final. Il a réussi à créer une sorte d'évidence. En fait, quand on voit le film, il arrive à créer un film où on ne juge pas les personnages, on essaie de les comprendre, on est vraiment en adéquation avec un environnement, on ressent ce qui se passe à travers des plans très 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 forts. J'aime beaucoup quand il utilise la plage pour passer des nuits. Aussi, comme un espèce de cauchemar, une espèce de pensée qui obsède Elena avec l'idée qu'elle a perdu son enfant sur une plage comme ça et cette plage vide qui la hante. Ou même d'un moment, on a le plan d'une forêt, d'un bas de forêt avec les troncs et des bruits d'enfants. On sent vraiment qu'il y a toujours cette espèce de petite pointe là qui la torture, mais qui mine de rien disparaît petit à petit avec le film au fur et à mesure que sa relation avec Jean prend de l'ampleur. Et c'est aussi que c'est ça qui est beau, c'est que même si on comprend pas totalement la teneur de leur relation, on n'arrive pas à savoir exactement ce que c'est, on comprend juste qu'elle fait du bien et qu'elle la libère, elle lui permet de, comme disait Sorogane, d'aller vers une lumière qu'elle n'avait pas retrouvée.
Oui, puis les plans sur la plage aussi, ça montre l'immensité de l'endroit dans lequel elle s'est retrouvée et le fait que de toute façon c'est aussi un film sur le deuil et qu'elle ne va pas avoir d'autre choix que de le faire, puisque comment est-ce que tu peux retrouver quelqu'un quand tout ce que tu vois devant toi, c'est une immense étendue de sable blanc et la mer d'un côté? C'est assez compliqué. Enfin, c'est ce que je disais du coup à Monsieur Sorogoyen tout à l'heure quand je suis allé le voir. Justement, moi j'ai grandi dans cette région-là, donc je suis allé à Vieux-Boucaud, j'y ai passé des jours interminables de mes étés. Et c'est vrai que le soir, ça redevient des villes mortes en fait, ces villes-là. On a l'impression d'être hors saison dès l'instant qu'il est passé 18h. Et il y a cette espèce de solitude qui est constante parce que donc, du coup, Elena est avec un copain, elle a quelqu'un dans sa vie avec qui elle s'apprête à déménager. Mais malgré tout, même quand il est là, même si elle dit qu'il lui fait du bien, même si on sent qu'il est protecteur, qu'elle a aussi besoin de ça, on sent qu'elle est quand même très seule. Et on sent que c'est plus une relation de fortune qu'elle s'est créée pour pouvoir avoir de la compagnie, mais qu'elle n'y croit pas tant que ça, et qu'elle avait besoin d'une expérience pour justement recommencer à vivre. Une belle romance d'été, romance qui n'est pas forcément une romance très amoureuse, qui est libre aussi d'interprétation. Moi, ça me fait penser à Été 85 aussi sur ce point-là, sur les romances d'été. On a quand même un bel été du coup au final, hein. Ça vaut le coup d'aller en salle en ce moment.
Et t'as pas encore vu Eva en août, hein, qui sort le 5 août et qui est extraordinaire. Un de mes films préférés de l'année aussi.
Alors, message à l'équipe, on va voir Eva en août. En plus, ça tombe le 5 août. Thomas sera pas là, donc il sera pas là pour ronchonner. Exactement. Voilà, Thomas, si t'entends ça, on est gentil avec toi. Merci Lily.
Merci à vous.
Bah, merci Ellie, hein, comme toujours.
Bah, merci. Hein.
Et puis, on va repasser l'antenne aux copains.
Allez, on est dans la partie suite, la partie rattrapage un peu. Qu'est-ce que tu as envie? Par quoi on commence?
Alors, on commence par La Nuit Venue.
On commence par La Nuit Venue.
Tu sais que t'es le seul chauffeur dans tout Paris à jouer cette musique? T'as pourtant pas l'air d'un clubber.
Je t'ai DJ.
Payé et tout. Et maintenant, chauffeur.
Heidi, Craig, là.
La Nuit Venue de Frédéric Farrucci avec Guang Huo et Camélia Jordana. Tiens, donc un film sombre avec Camélia Jordana.
Et pourquoi ça fait trop
mais parce qu'elle a une image un peu de jeune chanteuse, un peu sympa, tout ça. Alors, certes engagée, oui, récemment, mais on la voit plus dans les trucs gentils, familiaux. C'est l'image que j'en ai.
Mais attends, c'est pas l'image que j'en ai, c'est ça qui est fou. Après, j'ai pas tant son image de chanteuse, donc du coup, ça, peut-être que ça influe pas. Bon, après, je l'ai vu dans quoi ? Je l'ai vu dans Le Brio. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était dans Nous Trois ou Rien, où elle jouait justement la femme d'un des dissidents, enfin, qui était aussi dissidente du coup, et qui faisait des actions avec les autres. Enfin, c'était. Voilà, c'était pas un rôle non plus très éclairé. Bon, c'était dans une comédie, hein, mais elle joue pas dans Les Tuches, quoi.
Certes, elle ne joue pas dans Les Tuches. D'ailleurs, la nuit venue, on est assez loin des Tuches. On va suivre les tribulations d'un Chinois à Paris.
Référence.
Toc toc badaboum.
D'ailleurs, non, c'est pas dans celui-là que ça se passe au badaboum. Ah non, mais attends, j'étais là, on voit les raccords. Non, vas-y.
Je fais des raccords dans tous les sens. C'est le claque cinématique univers. On relie tous les films. En fait, tout se passe dans le même univers. Donc, l'histoire de Jin qui est immigré sans papier, qui est chauffeur VTC. Pour un réseau de sans-papiers chinois en France et qui va rencontrer Camilla Jordana qui est danseuse exotique, travailleuse de la nuit.
Travailleuse du sexe, hein, il faut le dire, je veux dire, il n'y a pas de honte à ça.
Il y a une ellipse quoi.
Ah si, si, c'est totalement établi qu'il lui arrive de coucher avec ses clients et de faire des extras à côté, donc c'est une travailleuse du sexe clairement.
Ok, donc travailleuse du sexe carrément, on l'assume. Et donc, il va se nouer une romance et l'envie pour Jin de se barrer parce que se faire exploiter dans un réseau comme ça, en tant qu'esclave, un peu devoir rembourser une dette qui s'agrandit à chaque fois, ben, c'est pas cool.
Oui, surtout que de toute façon, elles sont un employeur, entre guillemets, hein, donc le passeur, le gars qui a payé leur passage en France et qui les exploite, cherche la moindre occasion de justement rallonger la dette. Et surtout avec lui, puisque lui, de ce qu'on voit, contrairement aux autres, aux autres personnes qui sont VTC également, c'est que lui il compte vraiment le moindre billet qu'il se fait et donc il sait lui où il en est exactement dans sa dette et c'est aussi pour ça que c'est une pression supplémentaire pour le gars qui sait que c'est un bon élément, qu'il bosse bien pour rembourser tout ça et qui sait que s'il peut grappiller quelques années de plus de servitude, il va le faire quoi.
C'est un film qui mélange à la fois il y a une romance mais il y a une histoire de gangster finalement, une histoire de mafieux hein, parce que c'est un milieu mafieux. Est-ce qu'on s'y retrouve, est-ce que le mélange passe bien?
Moi, je trouve qu'on s'y retrouve carrément, même si j'ai l'impression de voir une grande exposition de quelque chose. Mais d'un autre côté, en fait, il se passe beaucoup de choses à l'écran, mais en réalité, sur le moment donné, il ne se passe pas tant de choses que ça. On voit Jin qui a son accident, il est obligé de continuer à rester alors qu'il s'apprêtait à sortir enfin de tous ces tumultes. Au moment où il y a ça, se crée une romance, donc l'envie pour lui d'encore plus s'évader. Du coup, ça devient encore plus problématique. Quoi. Le jour où il se dit « ça y est, c'est fini pour moi », il retourne au fond du trou, mais il a une oasis qui est là et qui lui dit viens on se casse quoi. Mais voilà, et je trouve qu'il se passe pas non plus immensément de choses et que du coup tout ce qui est mis en place est très très bien posé et j'aurais peut-être aimé en voir un petit peu plus. Mais voilà, moi j'ai eu l'impression de voir une évasion en fait, une espèce d'envie libertaire de la part de deux personnes qui se sont offert un dernier moment avant de devoir replonger malheureusement dans tout ça quoi.
Oui, c'est ça, cette envie de liberté, je la sens, d'autant qu'en plus, en tant que chauffeur de VTC, il doit avoir son téléphone avec la géolocalisation en permanence. Donc, il ne peut rien faire sans que ses employeurs, entre guillemets, le voient. Donc, il est fliqué en permanence. Et c'est ça que je n'ai pas très bien senti. C'est-à-dire qu'autant il y a tous les éléments pour un emprisonnement permanent, autant j'ai l'impression qu'il prend des libertés. Et du coup, j'étais un peu dans le flou, dans cet enfermement. Et je ne me retrouve pas en fait, cette histoire je la sens venir, je trouve que c'est l'histoire d'amour, j'y crois pas une seule seconde, l'histoire de mafieux je l'ai vue 100 fois sans qu'il y ait de réelle surprise, c'est rattrapé par une esthétique, c'est très beau, c'est un Paris la nuit, c'est magnifique, en plus on filme un Paris des travailleurs, des réseaux clandestins, c'est-à-dire que lui à sa fenêtre, il voit les mecs qui vendent les tours Eiffel sous la tour Eiffel, il voit les mecs qui vendent des fleurs comme ça, qui font le tour des bars, il voit ce monde clandestin souterrain de Paris. Donc, moi j'ai bien aimé la carte postale Paris by Night qui est moins glamour. J'apprécie pour ça. Après pour l'histoire en elle-même, elle m'a laissé sur ma faim.
Non, l'histoire d'amour, j'y crois totalement parce que justement j'ai vu le côté accroche énorme et attachement parce que justement c'est des compagnons de galère au final et tous les deux ils ont une vie pas facile et ils sont en proie à leurs émotions, c'est quand même horrible tout ce qui leur arrive et forcément quand tu vis des émotions extrêmement fortes, t'accentues tout quoi, donc une rencontre que tu viens à peine de faire, t'as envie que tout se passe tout de suite, t'as envie de ressentir les choses et t'as envie de te sentir vivant aussi parce que t'es mort à l'intérieur avec tout ce qui t'arrive, donc en soi non ça m'a pas dérangé. Oui par contre comme tu dis l'esthétique est magnifique et c'est vrai que le film est très prenant pour ça. Après voilà, j'aurais bien aimé que ça dure limite plus longtemps, que ça raconte encore autre chose, qu'on voit le passage après leur fuite, qu'on voit tout ça, j'aurais beaucoup apprécié que ça continue encore, hein, parce que c'était très l'ambiance était très prenante, je trouve. Mais qu'a-t-on vu d'autre ?
Parmi les films suivants, nous avons également vu des petits films aussi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que les films français, il n'y a pas que les blockbusters internationaux, il y a aussi les petits films internationaux. On est resté en Europe, on a vu un film espagnol, Tiempo después.
¿Vosotros os acordáis de la conmoción que se dio el día en que todos los valores tradicionales de la izquierda cayeron al precipicio por culpa de un desarme ideológico esterilizante y de una praxis política insultantemente pragmática? ¿Os acordáis?
Joder, que sí me acuerdo. Si no, se hablaba de otra cosa.
Parece lo nunca visto, pero es el acabose. Tiempo después. Una película monumental de José Luis Cuerda, que no es poco.
Un petit extrait de bande-annonce, vous avez vu, c'est tout beau, c'est tout joli. Bon, ça parle espagnol et il y a de la musique, on se croirait dans un film de Kusturica. En fait, non, désolé. Donc, Tiempo después, film de science-fiction, social et fauché, ouais. Espagnol, de José Luis Cuerda. Une histoire, on est en 9177... dans un monde hyper capitaliste et tout est regroupé dans une tour, tout est très réglementé, il y a une libre concurrence mais avec trois professions seulement dans l'étage, c'est gouverné par un roi, il y a deux gardes civils, c'est une petite société où tout est regroupé et à l'extérieur de cette tour il y a les chômeurs et les chômeurs n'ont pas le droit de travailler sinon ben, c'est plus des chômeurs. Et donc on est dans une espèce de monde absurde, un peu kafkaïen, un peu camelotien, un peu peut-être, vite fait, de loin. Et un homme un jour, un chômeur, va tenter d'aller vendre de la citronnade à la tour. Ça se veut comédie, ça se veut intello, il y a de grandes phrases. Mais est-ce que ça suffit à faire une grande œuvre ?
Bah, ça se veut ultra absurde, ça c'est clair. Alors toi tu disais camelotien, je pourrais pas confirmer. Kafkaïen par contre carrément, et ça joue justement sur l'absurde. Et je trouve que justement le côté même... Le côté qu'on pourrait qualifier de branlette intellectuelle avec de grands phrasés, avec des mecs qui se regardent parler et tout ça, ça joue, je pense, sur ce côté absurde, cette espèce de société qui se prend excessivement au sérieux, alors qu'en réalité, rien de leurs agissements n'a aucune logique. Après, il t'explique justement que la raison pour laquelle il y a autant de chômeurs, c'est parce qu'il faut maintenir le taux de chômage extrêmement haut, parce que sinon, ça va créer des inégalités pour les gros puissants. Donc, on est en plein dedans, c'est une grosse métaphore de la société actuelle, hein, ils n'étaient pas obligés d'aller aussi loin que ça. Mais. Moi, je sais pas trop ce que j'ai foutu dans ce truc, c'était très particulier. J'y suis allé parce que bon, le cinéma espagnol, ça me botte pas mal. Blanca Suarez, et il y avait aussi Antonio de la Torre qui jouait dedans. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, même s'il a un tout petit rôle. Mais bon, c'est toujours un plaisir de voir ces comédiens que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je suis pas du tout rentré dedans. Je me suis tout le temps demandé ce que ça foutait là. J'aime bien ce dont ça parle, j'aime bien ce que ça essaie de montrer, j'aime bien la manière dont ça se passe, même d'ailleurs la manière dont la société va récupérer un petit commerce d'un gars qui se trimballe juste avec un chariot, avec 26 citrons et sa pitoche de citronnade et qui veut juste faire son petit commerce et ça coûte rien et c'est juste pour lui et hop, les mecs, il faut capitaliser là-dessus, il faut créer la concurrence, il faut créer une société autour de ça, sinon c'est foutu quoi. Et pour que, évidemment, la tour récupère ses arriérés. J'aime beaucoup ce que ça veut mettre en place. Ça montre justement le vol des idées, ça montre la Startup Nation, ça montre le côté tu n'es jamais vraiment libre de t'entreprendre comme tu l'entends. Mais c'est vrai que c'est masqué sous tout ça et ça t'embarque un peu n'importe où et ça essaye d'en faire 3 tonnes. Pour te montrer à quel point on est déjanté, on est fou, on est rigolo, on est loin, on est des gros fifous. Mais ça charme pas du coup.
Ben non, ça charme pas. Il y a des moments vulgaires, mais qui sont vulgaires en fait. Qui sortent même pas, qui font même pas le petit peps, le petit pas de côté. Ça se fait des grandes phrases, ça veut expliquer. Ça prend des gros sabots et des grands airs pour expliquer des trucs qui étaient très simples à mettre en place, même visuellement en fait. Et avec peu de choses. Et je trouve que c'est un film qui pourrait être une comédie, mais qui se prend beaucoup trop au sérieux. Moi, j'avais l'impression de voir du théâtre subventionné. La caricature du théâtre subventionné, ça prend trop grands airs pour ce que ça veut raconter. C'est moins intelligent que ça ne veut en avoir l'air. Donc c'est une déception, franchement. Ouais. La bande-annonce me laissait attendre quelque chose et en fait, je ne l'ai pas. J'ai des petits trucs, il y a des petites idées par-ci par-là, mais c'est pas suffisant. J'avais l'impression de voir un film YouTube en fait.
Bah, d'autant que c'était un film, enfin, moi j'avais très envie de le voir aussi parce qu'il était compliqué au niveau de sa distribution. Il était dans 2-3 salles à Paris à peine et aucun gros truc. Donc c'est clair qu'il n'aura pas une exposition publique très, très marquée. On l'a vu au 5 Comart... non, pardon, on l'a vu au 3 Lincoln à côté des champs et clairement il n'y avait pas grand monde dans la salle. Hein, mais de toute façon, bon, ça c'est logique. Mais c'est vrai que tu te dis dans ce genre de cas, on va tomber sur la petite perle. Quoi, tu vois, on y croit, on y va, on est à fond et bon bah voilà.
Pas de chance.
Pas de chance.
Pas de chance. Du coup, on va rester en Méditerranée, mais de l'autre côté de la Méditerranée, Très très loin, enfin, très très loin, à l'est quoi.
Hi.
Hi. You come to the Turtle?
Yeah.
Sunday morning, bus number 18. Big explosion. One Palestinian with a rifle come and shoot the people on the street. You can see here the bullet.
No? Nefo.
Japani.
Dai, Japani, Japani. מה זה מטורף, אתה יודע מה זה?
כן, אבל אני לא רוצה לעשות מזה ביזנס. זה כמו תגלית, רק אפור.
Né à Jérusalem et toujours vivant. De Yossi Attia et David Ofek. Donc Yossi Attia qui joue d'ailleurs le rôle principal, le rôle de Ronen Matalon, d'un jeune, le rôle d'un Israélien qui est né rue Jaffa et qui organise des tours touristiques de la rue Jaffa, puisque cette rue a une particularité, c'est celle qui a connu le plus d'attentats dans Jérusalem. C'est ce qui n'est pas peu dire. Et même dans le monde.
Alors, je ne suis pas certain, mais je crois qu'à un moment, il le dit que c'est dans le monde. Ce sera à vérifier, hein, évidemment. Mais...
Bon, bref, en tout cas, il fait le tour des attentats. Il fait le terrorisme tour dans son quartier.
C'est joyeux, tiens.
C'est super joyeux. Et dans un rôle mémoriel, voilà, il rencontrera aussi une fille avec qui ça va bien se passer. Il y a quelques petites anecdotes, quelques petites aventures. Il y a son père aussi. C'est la carte postale. C'est une comédie, c'est un ton léger. Est-ce que ça vaut le détour ?
Comédie, c'est vrai qu'on le ressent pas tant que ça, mais léger, oui. C'est très mignon, c'est très doux, en fait. Et ce personnage est très touchant. Parce qu'on voit la contradiction avec les gens autour de lui qui, justement, lui disent « Attends, tu fais quand même des tournées à succès, quoi, finalement. » Il y en a une par jour avec à chaque fois une quinzaine de personnes qui se passent le mot. Les gens viennent pour le voir, lui. C'est une attraction, ce mec-là. Et il fait absolument tout gratuitement. Donc, c'est ça qui est très touchant dans ce personnage, c'est qu'on sent que ça lui tient extrêmement à cœur de partager sa culture. Et on s'en fout de savoir de quoi il vit, en fait. Ce qui nous compte, c'est de voir ce mec-là qui a envie de partager ses sentiments, de partager ses peurs également, parce qu'on voit qu'il est encore dans le traumatisme de ça. C'est pas énormément montré, mais ça se sent, et quand c'est montré, c'est très bien montré. C'est un témoignage d'une personne sur place, en fait. Tu pourrais limite penser que c'est un documentaire sur le gars qui fait ces tournées-là, quoi. Et c'est en ça que c'est touchant.
C'est ça, c'est touchant. Il y a presque pas d'histoire, quasiment, ou s'il y en a une, c'est un prétexte presque pour découvrir un peu le personnage, mais à travers lui, on découvre aussi cette rue, on découvre ce quartier, on découvre ce que c'est finalement vivre après les attentats. C'est une manière indirecte de parler d'attentats et de la vie après. Parce que ben il va vous montrer. Alors là, vous voyez, là c'est un quartier. Vous voyez la photo d'avant l'attentat, ça a explosé ici ou le jour de l'attentat. Voici le truc. Et essayez de retrouver. Et en fait, le quartier a tellement changé par la force des choses, par le temps, mais le temps qui passe, les destructions et autres. On sent ce passage-là. On sent aussi les plaques commémoratives, l'évolution aussi. Avant, sur les plaques, on marquait qu'il repose en paix. Et 10 ans après, on dit vous serez vengé. L'évolution des mentalités qui marque. C'est un film qui, en fait, on fait la visite avec lui. Et mine de rien, c'est le fait de nous amener cette visite-là avec nous, enfin de nous amener avec lui dans cette visite. Et en plus, c'est quelque chose qui nous frappe aussi. Parce que quand il refait le. On va simuler un après-attentat. C'est-à-dire que vous prenez le téléphone et vous appelez vos proches. Ça rappelle énormément de choses, parce que même à Paris aussi, on a eu des attentats. Ça rappelle les événements récents, notamment le Bataclan. On y pense forcément quand il parle de café, quand il parle de bus, quand il parle de ce genre de choses, des bombes ou des tirs dans la foule. On y pense et on a ça en tête. Je trouve que c'est très marquant, c'est très touchant, c'est très prude aussi et respectueux. C'est une douceur et ouais, je le recommande sincèrement.
Ouais, pareil. Pas grand chose à dire à rajouter à ça. C'est vrai que même les passages où justement ils donnent les téléphones aux gens et qu'ils leur demandent d'appeler et de simuler justement l'appel post-attentat en appelant des proches, les gens au début t'as l'impression qu'ils sont là, mais pourquoi est-ce qu'ils nous demandent ça? Et dès qu'ils le font, ils ressentent beaucoup de choses. Et c'est là que tu vois que oui, en effet, c'est quelque chose qui est universel dans le message, et c'est ça qui est bien. Mais oui, ça pourrait se passer n'importe où au final, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on te met pas de cause politique ou particulière là-dessus, ce qui aurait pu être le cas. Hein. Et tant mieux, on se pose pas la question de savoir ça. Il y a des moments quand même, le moment où il intègre légèrement un discours mais qu'au final ça s'enlève vite, c'est à deux moments au final. C'est un moment où il a une crise de panique en voyant deux personnes, et donc du coup en identifiant deux personnes qui ont une valise, on voit ce qui lui fait peur, donc du coup on peut penser qu'il y a une stigmatisation. Et à un moment où justement il s'arrête et il explique la manière dont ça s'est passé, il fait là vous voyez un Palestinien qui arrive et qui se fait péter, bon, et du coup voilà. Mais à part ça, où forcément de toute façon on sait très bien qu'il y a aussi un conflit hein, qui est sur ces deux terres, donc on peut pas le nier. Mais je trouvais qu'à part ça, c'était quand même voilà, très prude dans ce sens-là, ou dans le sens où ça ne montre pas, il n'est pas en train de faire un misérabilisme là-dessus, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est juste un témoin d'une ère passée, il est d'ailleurs content que ce soit terminé, qu'il n'y ait plus tous ces attentats dans cette rue, et voilà quoi, survivant quoi.
Merci. Bon, avec ça, normalement, vous avez de quoi faire votre semaine ciné, votre week-end ciné.
Il y a des choses au cinéma.
Et puis, c'est climatisé.
Et il fait chaud.
Et puis, profitez-en, parce qu'il n'y a pas autant de fréquentation que prévu, donc il y a de la place.
Ouais, mais faites quand même en sorte qu'il y en ait de la fréquentation. C'est un peu contradictoire. On demande à ce qu'il y en ait, et après on va nous dire bah, « Vous avez dit qu'il n'y en aviez pas !»
Profitez-en. Allez au ciné. C'est la fin de l'émission. On a déjà de quoi bien remplir la sortie ciné. Mais vous reprendrez bien une petite part de reco.
Évidemment.
Thierry, est-ce que tu as une petite reco pour nous si, à voir à la maison ou pas ?
Ouais, j'en ai deux du même site, qui était toujours ce fameux Outbuster que je n'ai toujours pas lâché depuis le confinement.
Tu l'as bien aimé, lui, hein ?
Ah ouais, je l'aime bien, ouais. Donc, ça s'appelle « Toute l'histoire de mes échecs sexuels ». C'est un film de 2008 qui est sur Outbuster dans la catégorie « Entre fesses », qui est réalisé et joué par Chris Waite, donc qui est un jeune trentenaire, il a 30-35 ans, et c'est un gars qui se pose la question du « mais pourquoi toutes mes histoires d'amour, c'est toujours moi qui me fais larguer, j'en ai marre ». Et du coup, il propose un documentaire à des producteurs qui acceptent, parce qu'ils trouvent que le concept est intéressant, et qui consisterait à aller rencontrer toutes ses ex et les interviewer, leur poser des questions du « mais pourquoi tu m'as largué, pourquoi tu m'aimes pas ?» Voilà. Évidemment, elles refusent toutes, mais sa mère s'en mêle, et du coup, il y en a certaines qui acceptent. Le mec est un connard fini, qui comprend rien à la réalité, qui n'est pas un méchant bougre, mais qui s'est toujours mal comporté. Et c'est ça qui est assez marrant, parce que c'est pas un documentaire, visiblement. C'est un vrai documentaire. Je me dis, le gars a quand même vraiment, si on suit la logique, il a quand même vraiment lancé ça sans même se poser la question de est-ce que ça pouvait être lui le problème. Il est vraiment parti du principe que les nanas sont des connasses qui l'ont toutes largué. Pourquoi je vais les rencontrer pour qu'elles m'expliquent et pourquoi c'est des connasses. c'est très drôle et c'est un documentaire de la loose. Le mec est un raté fini. Il a 35 balais, c'est encore un gars qui se balade en baggy avec des jeans troués dégueulasses, qui a pas de boulot, qui a rien. Enfin, après, pourquoi pas les jeans troués dégueulasses, c'est pas un souci. Mais du coup, là, c'est un docu de la loose où le gars rate absolument tout. C'est très drôle et à la fois c'est très cynique, tu rigoles mais t'as pas envie d'être à sa place et tu le plains, c'est triste en fait.
Aïe. Moi je vais rester dans le Kung Fu, parce qu'on a parlé de Ip Man qui est, d'après la biographie de Ip Man, le maître, le grand maître d'arts martiaux, le grand maître de Kung Fu, qui était aussi le maître de Bruce Lee, on l'a déjà dit et tout
ça. Tu as conseillé Ip Man Legend ?
Non, mais je vais conseiller un autre film avec Ip Man comme héros. C'est The Grandmaster de Wong Kar-wai.
Oui, non, bah oui, carrément. Mais tu sais que j'y ai pensé juste après, pourquoi j'en ai pas parlé. Je préfère d'ailleurs largement The Grandmaster à Ip Man.
En fait, The Grandmaster, c'est ça, c'est que non seulement, enfin, je trouve que il y a un ballet artistique, il y a une mise en scène qui est encore plus ouf, il y a une image qui est folle, il y a un jeu d'acteur, tiens donc.
C'est Wong Kar-wai, hein, il est bien plus exigeant. Enfin, en même temps, lui, Wong Kar-wai, je pense pas du tout qu'il ait abordé ce film-là en se disant qu'il allait faire un film d'arts martiaux. Hein. Lui, pour lui, il fait limite une comédie musicale gigantesque avec des chorégraphies de partout. Enfin, c'est dingue hein, ce qu'il accomplit là-dedans.
C'est dingue. Moi, j'ai encore en tête la scène sous la pluie qui a duré des jours. Je crois que même l'acteur a chopé une pneumonie, je crois, parce qu'à force de tourner sous l'eau. Parce qu'il a vraiment. C'était du vrai, quoi. Il n'y a pas de fake ni quoi que ce soit. C'est impressionnant. The Grandmaster. C'est du bon,
ouais.
De Wong Kar-wai. Ouais, il fait pas que In the Mood for Love.
Non, et 2040. Bah non, mais c'était. Bah, alors, il est pas très nerveux non plus, The Grandmaster, mais ouais. C'est vrai que c'était un retour à un cinéma entre très grands guillemets action pour Wong Kar-wai qui venait de faire justement In the Mood for Love 2046. Parce que c'est vrai que tu regardes ce qu'il faisait avant, tu prends le Chungking Express ou Les Anges Déchus, c'était un sacré nerveux, hein, le bonhomme. Donc là, on est dans un semi. Tu vois, il y a des passages un peu nerveux, des passages très oniriques, très contemplatifs. C'est un résumé de sa carrière en fait.
C'est ça. Il commence à pleuvoir, on va remballer.
Ils vont venir tourner la scène sous la pluie.
C'est ça. Merci Thierry.
Merci Thomas.
Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était Certain les Machos. Aujourd'hui, on vous a parlé de Ip Man 4 et de Madré de Rodrigo Sorogoyen. Retrouvez l'émission ainsi que les précédentes et les suivantes sur votre application de podcast préférée. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et pensez à commenter, mettre des étoiles, tout ça sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Clahac Podcast, C-L-A-A-C Podcast. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'émission, quels sont les films de l'été que vous attendez. On attend la réponse avec impatience. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous, bisous, bisous.
Bisous. Le meilleur film de l'été, Madre, de Rodrigo Dodoyan.
On va pas faire la vanne.
Sorogoyen.
Un entier.
De Rodrigo Sodoro. Putain ! Ah, je me suis fait avoir. On est allé voir Madre de Rodrigo Sodoro. On est allé voir Madre de Rodrigo Sorogoyen. De Rodrigo Sorogoyen.
Putain, je suis désolé.
Donc voilà, donc tu vois ce que tu m'as fait trois fois d'affilée à l'intro ?
C'est une vengeance, je te dis. C'est pour toutes les fois où tu diras Judd Apatow.
Ah, mais Judd Apatow, oui, voilà.
C'est pauvre Judd.
Petit voyage temporel. Pour la séquence de reco, voici Marwan qui nous laisse une petite reco ou anti-reco peut-être.
Ah ouais, je pense que ça va être plus de l'ordre de l'anti-reco. Quoique, en gros, la reco à la con que je vais faire, ce serait de ne pas regarder Eurovision ni Oddguard avec. J'ai enchaîné que des mauvais films quand j'étais.
En gros, tu nous apprends qu'il faut pas regarder Netflix, c'est pas un scoop ça.
The Old Guard, ce qui est assez fou, c'est que j'ai vu beaucoup de gens le mater dans mes connaissances, et à chaque fois c'était toujours la même réaction. Bon, vous dites que c'est nul, mais je vais me faire une idée, 2 heures après, oh bordel, c'est nul. Quelqu'un répond, bon allez, je vais quand même tenter pour voir, 2 heures après, oh bordel, c'est nul. Et la réaction enchaîne où tout le monde te dit que c'est nul et les gens continuent, tu sais, à tomber comme des petits dominos. C'est triste.
Mais ça faisait pareil avec Bloodshot.
Et puis là vraiment je vais faire que de l'anti-reco parce que j'ai l'impression que cette semaine ça a été qu'une semaine d'anti-reco. C'est que Far Cry 5 c'est nul aussi en termes de jeux vidéo. Sinon la reco ce serait voilà. Non, il y a pas de reco en fait hein.
Il est vénère.
Je suis vénère aujourd'hui, j'en ai marre, tu vois, parce que je sais pas si je vais le dire, c'est que j'avais une suspicion de coronavirus, donc je ne suis pas sorti pendant 3-4 jours, je l'ai pas. Et pendant ces 4 jours à la maison, rien.
Comment ça tu l'as pas, Marouane? Remonte-le.
Voilà. Rien n'a fait pour m'aider à survivre sur place. Tu as resté à la maison et ne pas sortir. Donc j'ai regardé des films Netflix, ça n'a pas marché. J'ai regardé des...
Normalement ça aurait aggravé ton cas.
Oui c'est ça. Apparemment je l'ai, mais que quand je regarde Netflix, tu vois. Quand j'arrête un film, ça va mieux. Mais voilà. Et puis même pour un jeu vidéo, pour essayer de me sauver de la situation, ça marche pas non plus. C'est nul, c'est pas cool. Mais bon, voilà. Bah maintenant que je suis sorti pour vous retrouver, pour voir des films, même si ça peut être nul. Là, on a vu Ip Man, donc vraiment, je suis très très content, je suis rechargé. Voilà, c'est bon, ça repart.
Une suspicion coronavirus, c'est la tendance inverse. Marwan, maintenant, nous amène voir de bons films. C'est fou parce qu'on a quand même beaucoup, enfin Thomas peut confirmer, on a quand même énormément de fanpage de claques avec énormément de gens qui gèrent. Enfin, tu vois, on a quand même une énorme commu. Et il y a aussi une fanpage qui est justement le sortez Marwan de claques, à cause de ça, ils vont rendre des mauvais films. C'est vraiment les anti-Marwan, hein, ils t'insultent à longueur de temps. Là, ils vont avoir un sursaut, quoi, je veux dire. Ils vont se dire, putain, merde, il va peut-être...
Attends, je vais rassurer les gens. Vu le niveau d'acteur, on reste sur le niveau... Comédie française, il joue mieux. Donc, non, on reste dans la catégorie habituelle.
C'est dans le 5, il se battra contre Arnaud Ducré.
Ah, mais peut-être que dans les comédies françaises, en fait, ils savent se battre. C'est juste qu'ils font pas de scène de kung-fu. C'est
seulement. Non, mais vraiment. Et pour vous dire jusqu'au point... le niveau, je commence vraiment même à rentrer dans la comédie française, c'est qu'on m'a proposé une figuration pour un film, je me souviens plus du nom, mais c'est un délire du qu'est-ce qu'on a fait à papy, tu vois. Et tu vois, j'intègre, je rentre dans la comédie française en tant que figurant, tu vois, c'est à un niveau incroyable.
Donc quand vous irez voir qu'est-ce qu'on a fait à papy, visiblement, un truc comme ça, si vous allez dans une salle où on est et que vous voulez savoir qui sont les membres de Claque, sinon vous entendez « Regardez, c'est moi !» avec une voix comme ça, exactement. C'est Marwan qui s'extasie devant lui-même.
Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc, tu vois, c'est bientôt le 7e ciel, tu vois, le niveau, le Graal, on atteint le Graal de la comédie française, tu vois, on épouse les formes...
Les comédies françaises sur le confinement avec Danny Boone, t'inquiète pas, on va morfler. Hein.
De Lucien Jean-Baptiste, non mais voilà, non, mais c'est bon, je suis...
C'est pas Lucien.
Mais oui.
Bon, c'est une anti-reco un peu longue, mais voilà.
Une anti-reco sur un film qui n'existe pas encore et dont Marwan va peut-être faire de la figure dedans. Tu vois, il prépare à l'avance. Bientôt, dans 3-4 semaines, il dira « Alors ça y est, j'ai fait la figure. En effet, c'est pas bon.
» En vrai, je vous en parlerai si ça se fait.
Et si on te laisse au montage, c'est un peu meilleur. Bon.
C'est un super fil rouge, quoi. Voilà. C'est le vent, c'est la version tu as Interville où tu montes les étages là.
On feuilletonne, on est là, ouais. Bon, très bien.
Précédemment, donc claque.